Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons plonger dans les racines de notre histoire. Dans la seconde partie de cette émission, je recevrai deux archéologues qui ont suivi de très près l'affaire de la découverte du tombeau de Jésus. Vous avez pu voir le documentaire du réalisateur James Cameron qui a été diffusé mardi soir sur TF1. Alors, nous allons faire le point sur cette affaire en étudiant ceux qui sont pour, les arguments contre. Durant la première heure, en revanche, je vous entraîne dans une région bien plus proche de chez nous. Nous allons dans le Tarn avec un livre intitulé « Les mystères du Tarn », un ouvrage écrit par Paula et Olivier Astruc. Olivier Astruc, bonsoir. Olivier Astruc, bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous ? Nous allons essayer de le récupérer dans quelques instants. Le temps pour moi de vous signaler que ce livre est publié aux éditions Deboré et a comme sous-titre « Histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires ». Avec donc Paula Astruc et Olivier Astruc, nous découvrirons des récits aussi étonnants qu'authentiques. Alors vous, si vous connaissez des histoires étranges dans votre région ou si vous voulez apporter un commentaire, vous êtes, vous le savez, les bienvenus. Posez des questions à mes invités également. Deux possibilités pour vous pour entrer en contact avec moi, avec les aventuriers de l'étrange. Vous pouvez appeler directement notre standard au 0826 300 300, 0826 300 300. Ce numéro de téléphone n'est pas surtaxé. Morad attend vos appels. Et vous pouvez encore également me contacter directement par SMS sur votre portable. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre question, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Ça arrive sur l'écran d'ordinateur que j'ai précisément sous les yeux dans le studio.
Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
Les mystères du Tarn, livre épais paru aux éditions Deboré, livre fascinant, étonnant, drôle souvent même, écrit par Olivier et Paula Astruc. Olivier Astruc, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Eh bien, très bien. À la veille de la fête des mères, tous les papas vont bien.
Dites-moi, Olivier Astruc, vous avez donc coécrit ce livre avec votre épouse. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de parcourir, de battre la campagne comme ça pour recueillir toutes ces anecdotes, toutes ces histoires, toutes ces légendes ?
Eh bien, à l'origine, on était très impliqués dans l'actualité régionale de par mon premier métier qui était avec Connaissance du Pays d'Oc, un magazine qui a lancé un petit peu la mode du régionalisme il y a, je vous dirais, 30 ans.
Ah oui, quand
et
même.
Puis, on a eu une parenthèse, on est parti aux Antilles travailler avec mon épouse qui est enseignante et moi journaliste. Et puis on est rentré en 2004 et on a retrouvé le pays d'origine avec beaucoup de plaisir. Et puis, on a décidé de s'intéresser de plus près à un petit peu au passé. C'est un retour vers le passé après avoir un petit peu quitté quitter le pays.
C'est une manière pour vous de le retrouver, finalement.
Grand plaisir, voilà. Ouais. On est originaire, ma femme est originaire de l'Hérault, moi, par la moitié de ma famille aussi, du côté de mon père, et puis on est né en Aveyron, et on s'est établi à la limite du Tarn et de l'Aveyron, juste en face du viaduc du Vior. Donc, ouais. On a eu envie de retrouver un petit peu et nos racines, et les racines de beaucoup plus que nous, c'est-à-dire les puisqu'on remonte jusqu'au Moyen-Âge.
Oui, tout à fait. Avec différents volets, donc, dans ce livre, des histoires insolites, étranges, criminelles, extraordinaires. Alors, comment et où avez-vous recueilli toutes ces histoires qui sont, il faut bien le rappeler, toutes authentiques, hein, évidemment. Vous êtes allé les recueillir au plus proche de la source.
Voilà, c'est-à-dire que nous, on se considère pas comme historien, bien sûr, mais on a une curiosité pour tout ce qui touche le patrimoine régional. Mmh. Et finalement, on a décidé, une fois qu'on a signé avec l'éditeur de Boré, de commencer par les archives départementales à Albi, où on a été très très bien reçus. Ils nous ont vraiment ouvert grand les portes. Et puis après, on est allé compléter nos informations avec les archives de Gaillac. On est passé à Mazamé, on est passé à Rieux-Montagné, au centre de recherche du patrimoine aussi, où on a trouvé beaucoup de choses intéressantes sur la montagne noire notamment.
Mmh. Mais quand vous arrivez comme ça dans les archives départementales, par exemple,
oui.
Vous demandez quoi? Parce que ça n'est pas classé par affaires étranges, insolites, extraordinaires. Il faut aller faire de l'archéologie. Il faut fouiller là.
Oui, bon, ils nous ont un petit peu dirigés en fonction de ce qu'on recherchait au début. Mmh. Et puis après, c'est quand même un travail de fouineur, hein. C'est-à-dire qu'on consulte un maximum de documents. Ils nous ont laissé d'ailleurs photographier les pages qui nous intéressaient ou les documents pour que ça aille plus vite que reprendre tout ça à la main.
Ouais.
Et puis après, ça se passe très très bien. On a rencontré des gens aussi, en plus des archives, qui nous ont donné quelques témoignages beaucoup plus directs.
Oui, des mémoires vivantes en quelque sorte.
Voilà, exactement. Des gens, en plus de ça, qui n'ont pas vécu les époques dont ils parlent, mais c'est là qu'on se rend compte que la tradition orale est restée très forte dans le Tarn, parce que les gens vous racontent des histoires qui tiennent de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère ou de l'arrière-arrière-grand-père et qui sont perpétuées jusqu'à maintenant.
Oui. Et les gens que vous avez contactés étaient, comme l'on dit, des anciens ou des jeunes qui avaient encore la culture de cette mémoire?
En général, c'est quand même
des anciens, quand même.
Au-dessus de 50 ans,
oui.
Je dirais. Hein,
oui.
On a travaillé avec des documents en patois aussi, donc le patois est quand même un petit peu perdu chez les jeunes générations, mais les gens qu'on a rencontrés et qui étaient férus de patois, on a des voisins qui parlent encore au patois entre eux tous les jours, et c'est quand même une source intéressante.
Ah oui.
Votre documentation.
Oui, j'imagine. Alors, Olivier Astruc, vous restez avec nous, on va s'accorder une première pause et on va commencer avec une histoire que j'ai trouvée extrêmement fascinante, surtout dans le cadre des aventuriers de l'étrange. Après cette pause, vous allez nous parler d'un certain Barthélémy Test.
Ah oui.
Un potier de conditions modestes, analphabète qui plus est, et qui a produit quand même des prophéties très très surprenantes. Donc on va y revenir. Vous allez nous dire quelles sont les prophéties qu'il a données, qu'il a faites, si elles se sont révélées, ma foi, assez intéressantes ou pas, et dont une prophétie que j'ai trouvé particulièrement étonnant parce que elle est contemporaine de nous, puisque il a dit, enfin je ne dis pas ce qu'elle révèle, mais elle s'est passée a priori en 1999. Vous voyez, c'est vraiment très proche de nous.
Eh oui, oui, voilà. Oui. Au tournant du siècle. Hein.
Exactement. Donc, qu'a raconté Barthélémy Test, ce potier analphabète? Vous le saurez dans quelques instants.
Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
Durant la deuxième partie de cette émission sur Sud Radio, tout à l'heure aux alentours de 23h, deuxième et dernier volet de notre enquête sur le tombeau de Jésus avec deux archéologues qui seront mes invités. Mais Pour l'heure, dans cette première heure, nous restons dans notre sud-ouest, dans notre grand sud, avec le Tarn et ce livre « Les mystères du Tarn » d'Olivier et Paula Astruc aux éditions de Boré. Alors, Olivier Astruc, on va commencer donc par le volet des histoires mystérieuses et étonnantes, avec ces prophéties d'un personnage, Barthélemy Test, dont je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler avant de le découvrir dans votre livre.
Et oui, c'est quand même une histoire que... Ça fait partie des surprises quand on cherche dans les archives.
Oui.
On retrouve des traces d'histoires qui font partie de l'histoire un petit peu méconnue, un peu souterraine.
Mmh.
Il a pas fait... beaucoup de bruit à l'époque, mais quand on relit ces documents et ces prévisions dans notre époque contemporaine,
ouais.
Ça remonte quand même ses premières prévisions en 1868, et il a été quand même très étonnant dans la mesure où, comme vous le rappeliez en introduction, c'était quand même un potier analphabète en plus, et que... À la limite, on a dû le considérer comme quelqu'un d'un peu illuminé à l'époque où il a fait ses prévisions, mais il y en a quand même pas mal qui se sont révélés plus ou moins exacts. Et,
oui,
et
oui, oui. Alors,
quand même, ça pose une grosse interrogation sur le fait qu'il avait même, à cette époque-là, 1868, donc prédit des choses jusqu'à la période quasiment contemporaine, puisqu'on parlait de 1999.
Oui, tout à fait. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Alors, décrivez-nous d'abord l'époque dans laquelle il vivait. Enfin, situez-nous le personnage. Il vivait où? Qu'est-ce qu'il faisait? Et qui était-il en fait, pour ce que l'on en sait évidemment?
Oui, alors c'était un potier donc analphabète, comme on a dit, de la Montagne Noire. Et il a jamais connu de notoriété comme Nostradamus en tant que prévisionniste.
Mmh.
Mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas marqué son temps, curieusement, à l'époque où il faisait ses prophéties. Mais c'est après, au fil de l'histoire, qu'on a pu se rendre compte que c'est quand même quelqu'un qui avait... donner des prédictions non seulement régionales, puisqu'il avait même prévu un fameux tremblement de terre en Guadeloupe qui commencerait à 10h03 et finirait à 11h du matin en Guadeloupe, et c'était en 1845.
Oui. Très étonnant comme prophétie quand même, comme voyant, je veux dire, il est tombé.
Sûr, parce qu'on imagine qu'en tant qu'analphabète, il n'avait jamais dû voir une map monde non plus, il ne devait même pas savoir où était la Guadeloupe. La grosse interrogation vient du fait qu'il s'intéressait un petit peu au monde entier dans ses prévisions, et puis avec des détails même assez précis, quand il dit par exemple... À l'instant même, une étoile venant du ciel tomba à mes pieds, le vif éclat de ce météore dissipa ces animaux que je ne vis et ni n'entendis plus. J'aperçus un papier fixé sur un arbre, écrit en caractère rouge, qui prédisait des processions qui devaient se faire dans tout l'univers. Et puis à partir de là, il a donné des prévisions sur 1853, 54, 58, 1860,
mm-hmm.
y compris la politique.
Oui. Là, lui a vécu...
Napoléon Bonaparte. Aussi,
oui.
Hein.
Lui a vécu à quelle époque? Est-ce qu'on le sait, ça?
Alors lui, il a écrit ses premières prévisions en 1868.
Mm-hmm.
Oui. Et puis après, comme il était analphabète, effectivement... Toutes ces précisions, à partir de 1869,
mmh.
ont été codifiées, prises en note par un notaire qui s'appelait Vabré, qui était natif de La Bruguière, c'était un voisin à lui, finalement,
ouais.
et qui a fait authentifier la déclaration des 22 témoins, parce qu'il y avait des témoins, par un élu communal, et l'a fait transmettre à Napoléon III.
D'accord.
Donc l'analphabète, finalement, par l'intermédiaire du notaire Vabré, a essayé de faire remonter, sans succès d'ailleurs, comme on l'explique à la fin de ce chapitre, jusqu'à Napoléon, qui n'en a pas vraiment tenu compte.
Mmh. Et pourtant, Napoléon avait un côté très superstitieux, on le sait, très attaché à des signes comme ça. Il était corse et visiblement dans sa famille, ces choses-là étaient prises très très au sérieux. Mais finalement, où avez-vous, parce que moi je n'en avais jamais entendu parler de ce personnage, comment l'avez-vous dégoté?
Alors ça, c'est un texte qui vient des archives départementales du Tarn.
Oui.
Et qui a été relaté par Bertrand de Viviès, qui est bien connu en tant qu'historien, bien sûr, puisqu'il s'occupe de la Société des sciences, arts et lettres du département.
Mm-hmm.
Il est aussi très impliqué dans la Revue du Tarn, où on a trouvé, nous, dans les autres sujets du livre, beaucoup d'histoires vraiment, vraiment étonnantes. Et c'est là qu'on remercie vraiment les historiens, parce que nous ne sommes pas historiens. Donc,
oui.
Nous, les historiens, nous alimentent et on réécrit un petit peu les histoires en s'inspirant. On prend le fait véridique des historiens et on le transpose un petit peu à notre façon.
Mmh.
En fait, il a un livre, Bertrand de Viviès, qui s'appelle « Les aventures de Barthélemy Test ou les inspirations d'un potier prophète ».
Ouais.
Et c'est quelque chose qui est sorti aux éditions Polyphile dans « Les hommes et leurs villes » en 1985.
Très bien. Dites-moi, Olivier Astruc, quelle est la prophétie de ce potier qui vous a le plus troublé, le plus étonné, hormis celle de 1999, parce qu'on ne peut pas dire de cette prophétie, on en parlera tout à l'heure si elle est vraie ou pas, mais quelle est pour vous celle qui vous a vraiment laissé le plus pantois?
Oh bien, je pense qu'il y en a beaucoup, parce qu'il a fait beaucoup de prévisions, et il était très, très prolifique, malgré le fait qu'il était analphabète.
Oui.
Mais il a cité notamment que le 24 février 1848, une seconde révolution devait éclater en France, par suite de laquelle le prince régnant serait renversé, que la République serait proclamée, que le prince Louis-Napoléon serait élu représentant du peuple, ensuite choisi pour président de la République et plus tard enfin élevé à l'éminente dignité d'empereur des Français. Alors à l'époque où il a écrit, effectivement, c'était en 1868, il fallait quand même avoir un petit peu de vision avancée des choses.
Et
puis les histoires sur que les ennemis de la papauté livreront au pape une guerre acharnée et qu'il restera toujours victorieux de toutes les tentatives qu'on fera contre lui, etc. En fait, il a fait tellement de prévisions, et quand on compare avec l'histoire officielle qui se retrouve quand même assez, assez vérifiable, là, il y a, je crois, un vrai mystère.
Ouais. Et ce sont des prophéties, à vous entendre, qui n'ont pas été complètement défrichées. Donc il y a vraiment du travail à faire et peut-être d'autres perles à découvrir. Faisons cesser le suspense, Olivier Astruc, cette prophétie qu'il a dictée, puisqu'il ne savait pas écrire, qu'il a dictée concernant l'année 1999. Que dit-elle?
Alors, en 1999, selon ce qu'il a indiqué donc au notaire qui lui servait de scribe, si on peut dire,
oui.
En 99 doit naître un enfant extraordinaire qui aura reçu du ciel la divine mission de niveler toutes les croyances et d'établir partout, parmi les hommes, l'unité de la foi. Alors là, c'est pas forcément vérifié.
Il va falloir attendre.
Voilà.
C'est-à-dire que s'il y a un messie qui pointe le bout de son nez, on lui demandera tout de suite en quelle année est-ce qu'il est né.
Voilà.
Pour voir. Et si c'est 99, là, respect Barthélemy quand même, hein.
Eh bien, il faudra qu'on en reparle dans une vingtaine d'années.
Oui, je pense, parce que là, à l'heure actuelle, s'il est né en 99, il a 8 ans, quoi. Enfin,
Voilà,
à peine 8 petites années, et un destin extraordinaire l'attend. Donc, on va voir. Ces prophéties sont remontées encore plus loin, ou c'est celle qui est la plus loin dans le temps qu'il est faite?
On retrouve aussi une autre prophétie, donc, pour l'année 99. 1999 naîtra un enfant extraordinaire destiné à établir partout l'unité de la foi.
Oui, ça oui.
Le nouveau Messie, s'il existe, est encore trop jeune pour être identifié. Il reste cependant le bienvenu.
Oui, ça c'est la prophétie qu'il avait dit, mais il n'y en a pas d'autres, je veux dire. Pour 99, c'est la seule qu'il a faite.
Non, dans les plus récentes, je ne pense pas qu'il s'était aventuré.
Oui, qu'il se soit aventuré.
Si loin, hein. Ouais. C'est la trace la plus contemporaine, si on peut dire, qu'on ait pu trouver.
Oui. Alors, après quand même cette histoire assez extraordinaire, celle de Barthélemy Test, sur laquelle d'ailleurs on reviendra sûrement dans le courant des émissions des Aventuriers de l'Étrange, parce que il y a sûrement matière à réfléchir et à creuser dans ces prophéties. Olivier Astruc, parlons un petit peu, reprenons le livre par le début, avec vous commencez par différentes recettes médicinales insolites, pour le moins, que l'on utilisait il y a peut-être pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ces recettes, j'en ai cité une d'ailleurs pour annoncer l'émission, pour guérir une migraine, avez-vous relevé. Il faut donc prendre une chauve-souris, la fendre par le milieu, l'appliquer sur le cou du bras, et ça guérit ainsi les migraines. Bon, pauvre bête d'abord.
Oui.
Chauve-souris, je rappelle quand même à toutes fins utiles que les chauves-souris sont des animaux protégés maintenant en France.
Exactement.
Et qu'on a d'excellents cachets pour calmer les migraines.
Voilà.
Donc laissez tranquille ces pauvres bêtes qui ne vous ont absolument rien fait. Comment avez-vous retrouvé ces recettes farfelues, enfin farfelues, à l'époque elles ne l'étaient pas parce qu'elles étaient prises au sérieux. Comment avez-vous trouvé ces recettes?
Eh bien en fait, ça fait partie des archives aussi, où à l'époque les notaires locaux consignaient en vieux français un petit peu tout ce qu'ils arrivaient à trouver.
Oui.
Et puis ça permet à partir des papiers de famille, c'est-à-dire que les gens donnaient des recettes qui se transmettaient quand les notaires...
Ah oui, ça faisait partie du patrimoine, donc vraiment.
Ah, complètement, oui. Et puis alors là, on a parlé des chauves-souris, mais alors il y a d'autres éventuellement recettes médicinales qu'on appelait à l'époque de bonnes femmes.
Oui,
dans l'esprit de beaucoup de gens, les recettes de bonnes femmes, ce sont des recettes de sorcières ou de femmes.
Oui.
En fait, les recettes de bonnes femmes, ça venait de bonnes femmes qui venaient, femmes en latin, c'était réputation.
Mm-hmm.
Donc c'était des recettes de bonne réputation.
Ah,
maintenant,
d'accord.
Quand on lit le détail des recettes, on peut quand même être un petit peu sceptique à l'heure actuelle.
Oui, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes pour que l'on comprenne un petit peu en quoi consistaient ces recettes qui, pour nous, maintenant, actuellement, paraissent complètement hallucinantes?
Ah ben oui, on n'a que l'embarras du choix. J'en ai une là sous les yeux. Pour faire dire le secret à une femme, il faut attendre qu'elle s'endorme et poser le cœur d'un corbeau sur son estomac. Interrogez-la, elle vous répondra aussitôt sans mentir. Si ça marchait, ouais. Ça se saurait.
Oui, on comprend pourquoi les corbeaux ont disparu de nos campagnes.
On en a encore quelques-uns par ici.
Parce qu'il reste des corneilles, mais des corbeaux, il n'y en a pas beaucoup quand même. Hein. Les pauvres bêtes, elles ont dû être massacrées à cause de ça. Est-ce que vous connaissez encore d'autres... tiens, juste en dessous de celle pour faire dire le secret à une femme, pour calmer la douleur des dents qui a toujours fait souffrir horriblement hommes et femmes de tout temps.
J'y suis passé aussi.
Oui.
Et alors là, il faut prendre un petit morceau d'aillette et
d'aillette,
le tenir
au bout
des doigts dans les trous d'oreille sans le laisser glisser des doigts. Et on verra la douleur apaisée.
Oui, donc il faut... Alors, je répète, il faut prendre un petit morceau d'aillette. D'aillette, c'est quoi? C'est l'ail,
j'imagine? Un petit ail jeune, oui.
D'accord, un petit ail jeune. Donc, un dans chaque main. Il faut le tenir du bout des doigts. Et avec le bout des doigts, le maintenir dans les oreilles. Donc,
voilà.
Rien à voir avec les dents, on est d'accord, hein?
C'est-à-dire que peut-être on sent encore la douleur, mais on ne l'entend plus.
Oui, c'est... Ça doit être quelque chose comme ça. Et le tenir comme ça. Et finalement, la douleur passe. Mais ce genre de recette de bonne femme, ou de secret en quelque sorte, faisait partie du patrimoine. Vraiment, on le gardait jalousement.
Ah, complètement. Et puis ça se transmettait non seulement en général de mère en fille, mais ouais, de famille en famille, éventuellement pour les voisins. Quand quelqu'un était confronté à un problème médical un petit peu aigu, on sait très bien qu'à l'époque, il n'y avait pas la carte vitale, donc il fallait bien pour survivre trouver les moyens, tous les moyens étaient bons.
Oui.
Et puis même quand on parle du secret à une femme, il y a pour faire dire le secret à un homme.
Allons-y.
Quand il est endormi aussi, puisque oui, bien sûr, hors du sommeil, on est trop conscient pour subir tout ce genre de, oui, de pratiques. Il faut poser sur lui le cœur et le pied droit d'un chat nuague. Alors ça, on suppose que c'est un chat huant, encore faut-il en trouver, et oui, l'interroger pour apprendre tout ce qu'il voulait cacher.
Alors, il faut poser quoi, vous m'avez dit, le...
C'est quand il est endormi, le oui, cœur et le pied droit d'un chat huant.
C'était assez gore quand même, hein,
dans, eh ben oui,
dans l'ensemble quand même.
On suppose qu'à l'époque, ils avaient largement de quoi se fournir en ingrédients dans la campagne environnante.
J'imagine.
Parce que c'est quand même, pour purger un chien par exemple, on va passer aux animaux oui, un petit peu si vous voulez rapidement. Il faut prendre une tête de mouton avec du soufre et de l'huile de laurier purgée pour lui faire manger. Et s'il y a quantité de chiens à purger, il faut prendre une brebis entière carrément et nettoyer les boyaux et les répartir en 4 ou 5 parts.
D'accord. J'imagine que si ces recettes sont arrivées jusqu'à nous, c'est que elles ont dû donner au moins quelques résultats, a priori.
Sans doute, parce que, bon, là, ça paraît un petit peu extravagant, les cas qui sont cités.
Pour le moins.
Et on ouais, sait très bien que dans la médecine actuelle, encore même très chimique, une bonne partie est faite à partir de plantes ou des molécules de plantes qui ont été synthétisées. Donc, ils n'étaient pas si fous que ça avec leur pratique.
Oui, complètement. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, si vous avez connaissance de ce genre de secret un petit peu particulier pour le moins, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, les confier à Morad. Ensuite, vous passerez à l'antenne pour que nous puissions les partager tous ensemble. Ou encore, vous pouvez me les envoyer par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez ainsi votre recette et vous me l'envoyez au 71 200. Je la dirai à l'antenne puisque elle s'affichera directement sur mon écran d'ordinateur. Et si vous le permettez, Olivier Astruc, je donnerai une recette que j'ai découverte dans votre livre pour se garder de dormir, donc pour ne pas céder au sommeil, hein, si j'ai bien compris.
Oui.
Alors, il faut mettre sous le chevet, donc de la personne, enfin notre chevet, si on ne veut pas dormir, les yeux ou la queue d'un rossignol.
Et ben voilà, tant qu'il reste des rossignols,
oui,
c'est pas conseillé d'essayer.
Non.
Enfin, ça paraît comme, on dit peut-être dormir comme un oiseau après.
Oui, peut-être. Mais enfin, quand même, c'était très particulier quand même.
Bien sûr. Puis je vais vous dire, si on a le choix entre les yeux ou la queue du rossignol, je crois que je choisirais la queue.
Oui, tant qu'à faire. Ouais. Parce qu'il y a d'autres éléments, comme enfin pour guérir les migraines, attraper une chauve-souris et la fendre par le milieu.
Oui.
C'est quand même très sanglant tout ça, malgré tout. Olivier Astruc, on s'accorde une petite pause et on va continuer à parler des guérisseurs tout à l'heure. Ce que vous nommez, je suppose que c'est en patois, évidemment, les tétaires et les débinaires, c'est ça?
Ah
hein,
oui.
Voilà, on en parlera tout à l'heure, parce que comme, évidemment, à l'époque où cela se passait, les médecins, il n'y en avait pas dans toutes les campagnes, eh bien, il fallait se tourner vers des gens qui avaient des dons, des qualités, ou du moins un savoir pour essayer de guérir. 0826 300 300, si vous en connaissez, appelez-nous pour nous les dire à l'antenne. Et ensuite, tout simplement, par SMS, vous tapez Sud sur votre portable et un espace, vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. À tout de suite.
Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
En compagnie d'Olivier Astruc, qui a écrit avec son épouse Paula Astruc un livre que je vous recommande, Les mystères du Tarn, surtout si vous habitez le département ou les départements limitrophes, ou même vous qui nous écoutez, où que vous habitiez. C'est vraiment un livre plein de d'enseignements, beaucoup d'humour quand même dans votre manière d'écrire et dans les histoires que vous avez choisies, Olivier Astruc.
Oui, bien, disons que on s'intéresse beaucoup à l'histoire, mais nous ne sommes pas historiens, donc l'histoire nous abreuve un petit peu de divers sujets, on picore dedans, et puis on a trouvé que par rapport à la rigueur et à l'académisme des historiens patentés, dans un souci de vulgarisation, il était peut-être bon de présenter les choses de façon un petit peu plus légère, des fois un petit peu gaillarde, des fois un petit peu paillarde, ou avec une certaine émotion quand le sujet s'y prête.
Bien sûr. Alors, avant de passer donc aux guérisseurs, des binaires et les tétaires, j'espère que je le prononce pas trop mal, que ceux qui parlent patois m'en excusent, il y a un SMS qui vient d'arriver, absolument pas féministe pour un rond, qui dit « Pour faire dire un secret à une femme, il suffit de lui dire de ne pas le répéter.
» Je vois que vous avez de bons informateurs de vos côtés.
Bah écoutez, je lis les SMS qui me parviennent. Donc si vous voulez envoyer des SMS, 71 200, vous tapez sud sur votre portable, vous laissez un petit espace, ensuite vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. Alors Olivier Astruc, parlons des tétaires et les débinaires. C'est comment, ce sont qui, c'était qui ces gens-là, des guérisseurs finalement?
Alors là, ce sont des guérisseurs, mais c'est un sujet, puisqu'on a écrit le livre à quatre mains avec Paula, mon épouse. Mmh. C'est elle qui a traité ce sujet, et je pense que à la veille de la fête des mères et en tant que femme, elle est sans doute très bien placée pour vous en parler. Je vous la passe.
Très bien. Et en attendant, je lis un SMS qui vient de nous parvenir d'un auditeur ou d'une auditrice qui nous précise que sa mère utilise toujours du laurier et de l'huile pour purger les chiens. Comme quoi, finalement, cette ancienne recette avait un fond de vérité, puisque des personnes continuent à utiliser du laurier et de l'huile pour purger les animaux. Paula Astruc, bonsoir.
Bonsoir. Alors moi, je voulais juste vous dire que, si vous voulez, nous avons choisi quand même dans les recettes médicinales qui sont citées, nous avons choisi bien sûr les plus pittoresques, celles qui étaient quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui sont effectivement des recettes qui sont tout à fait valables.
Mmh. Oui,
moi j'avais une grand-mère qui soignait par les plantes, donc j'ai retrouvé beaucoup de recettes qu'utilisait mémé, donc mais bon, ça c'est parce que bon, c'est normal, hein, on peut pas tout citer, on a cité, si vous voulez, le plus extraordinaire et le plus...
Bien sûr, le plus extravagant également,
voilà,
de temps en temps. Oui, tout à fait.
Le plus drôle, surtout.
Oui.
pas pour les animaux, mais...
Non, pour certains animaux, non, c'était pas drôle du tout.
Non, c'était pas drôle du tout, je vous assure.
Ils se retrouvaient au cœur de la recette, bien malgré eux, les pauvres.
Non, surtout couper la langue d'un chien pour en sauver un autre...
C'est très particulier.
C'est très particulier.
Alors, parlez-nous de ces guérisseurs, parce que, évidemment, à cette époque-là, jusque même... après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas des docteurs dans toutes nos campagnes, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Et donc il y avait dans chaque village, ou du moins dans chaque canton, ce qu'on appelle le canton maintenant, il y avait un guérisseur, ou plusieurs même, et dont certains étaient vraiment remarquables.
Oui. Et alors, quelle est la différence entre débinaire et tétaire?
Alors, oh là, elle est énorme.
Ah bon?
Le débinaire, c'était un guérisseur par secret. Alors, si vous voulez, il déterminait l'origine du mal, et puis il soignait. Bon, alors il y avait quand même beaucoup de messes, etc. Alors le tétaire, c'est vraiment quelque chose de très particulier qui remonte à la nuit des temps. Le dernier tétaire est mort en 1957, et nous nous sommes inspirés de la thèse de Valérie Cabrol, qui est une jeune femme qui a fait une thèse remarquable sur les tétaires. Les tétaires étaient, si vous voulez, je vais vous expliquer, lorsqu'une femme accouchait, qu'elle devait allaiter l'enfant et que soit parce qu'elle avait un abcès, soit parce que le mamelon était rentré, le bébé ne pouvait pas téter.
Oui. Et comme et donc pouvait mourir par là même.
Enfin, et c'est-à-dire qu'il allait mourir de faim puisque les bourgeoises, donc les femmes qui avaient de l'argent pouvaient se payer des nourrices, mais à la campagne, vous savez, s'il n'y avait pas de lait, à part s'il y avait une voisine qui accouchait en même temps, mais c'était pas toujours le cas. Donc il fallait absolument vider l'abcès si c'était un abcès ou faire sortir ce mamelon. Oui. Donc, il y a une coutume qui remonte vraiment à la nuit des temps. Et on choisissait le fou du village, un petit peu, vous savez, le débile, bon, l'innocent du village.
Simple,
il fallait qu'il soit vieux, hein, donc le vieux débile du village. Et c'était lui qui était chargé d'aspirer donc le mamelon. Pour que le lait sorte, le pu aussi, c'est comme ça. Et lorsque tout était fini, si vous voulez, le bébé pouvait téter à nouveau. Et alors, il y avait évidemment des jeunes femmes, parce qu'elles étaient, vous savez, on avait des enfants très jeunes à l'époque, elles étaient pudiques, hein, c'était pas facile pour elles. Mm-hmm. Donc, quand elles refusaient, par pudeur, on mettait un petit chiot ou bien un petit cochon. Et c'était eux qui tétaient et qui permettaient à l'enfant finalement de survivre. Ou bien on allait dans la vallée du Touré et puis on priait Sanguinou, qui était un saint qui permettait justement l'allaitement, enfin qui permettait à l'enfant d'allaiter. Voilà. Mm-hmm. Alors le tétaïre, c'était vraiment quelque chose de très particulier. C'était pas, si vous voulez, ni sorcier, ni c'était quelque chose de très mécanique et qui existait dans la montagne noire, mais également à Montpellier, dans tout le Languedoc, en fait. On a retrouvé des traces dans tout le Languedoc. Mm-hmm. C'était vraiment très, très particulier.
Oui, et le dernier, nous avez-vous dit, est quand même décédé dans les années 50.
Oui, donc Valérie Fabrol...
C'est vraiment contemporain.
Il est mort en 1957, mais elle explique que Germaine, donc, qui est une femme qui lui a raconté donc tout ça, a accouché en 1925 à 23 ans et le dernier tétaïre, donc Pierril, qui est mort en 1957, lui a sauvé la vie en venant la téter trois fois par jour. Alors, je vous lirai pas, je sais pas si vous l'avez lu, mais
oui,
je crois
tout
que
à fait. Oui.
Âme sensible s'abstenir parce que
parce que là c'était quand même redoutable.
C'était gore, oui.
Oui, quand
et
même.
C'est dur, mais bon, c'était l'époque, hein, c'était comme ça.
Et ça lui a permis d'avoir la vie sauve au moins.
Elle certainement, parce qu'il y avait des infections et l'enfant surtout, le bébé, quoi, parce qu'il y avait déjà tellement de mortalité
infantile, bien sûr.
Ah, le taux de mortalité était effrayant et donc ça sauvait l'enfant. Et ça sauvait la mère.
Oui. Et alors, vous citez plusieurs, cette fois-ci, alors,
des guérisseurs, donc.
Des guérisseurs, voilà, des guérisseurs qui avaient un secret, des débinaires, donc.
Alors, les débinaires, c'était le sorcier. Il faisait partie des guérisseurs. Il donne un exemple, enfin, nous, on a relevé un exemple. Toutes les maladies lentes accompagnées de fièvre, il faut enfermer une araignée dans une petite boîte, ou à défaut un morceau de papier, puis le jeter dans le Tarn, en tournant le dos à la rivière et en ayant bien soin de ne pas regarder vers quel endroit le courant l'entraîne. Ah. Oh, moi, j'ai ajouté que sans être sorcier, on peut deviner que la malheureuse araignée filera en aval.
Oui.
Comme c'est un secret, on ne le dira pas.
Oui, tout à fait. Et alors, vous en citez quelques-uns, dont notamment un qui s'appelait
Janou le Grillo, qui était un personnage assez pittoresque. Hein. Il était coiffé d'un vieux shako galonné de papier doré, la poitrine constellée de nombreuses et chimériques décorations. Mm-hmm. C'est un paysan trapu aux jambes arquées, la face large, moins qu'intelligente. Ils sont pas gentils, mais bon.
Oui. Il passait pas inaperçu, cela dit. Hein.
Parcourait les rues de la ville les jours de foire avant de se rendre à l'auberge où il recevait ses clients. En fait, il avait le sens de la publicité avant l'heure.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on le remarquait, il passait pas inaperçu. Mm-hmm. Et il guérissait la glaçadour, c'est-à-dire c'est la maladie de langueur, la dépression en fait. Mm-hmm. Et alors, c'était pas un sort, l'armacier lui guérissait le débinaire, pardon, guérissait les sorts, et lui c'était des maladies qui avaient pour origine, vous savez, on disait, il faut pas se mettre dans les courants d'air, les grands-mères disaient toujours attention, et alors on appelait ça la glaçadour, et c'était une imprudence en fait, on avait bu par un jour de grande chaleur de l'eau glacée, on s'était trouvé dans un courant d'air froid, bon, le sang s'est glacé, en fait, c'est glanzat, ça veut dire le sang s'est glacé.
Mm-hmm. Et lui avait une particularité, il utilisait
cribler l'eau.
Voilà. Alors, il criblait l'eau. Ça, oui. Ça veut dire quoi?
Ah ben, ça veut dire qu'il, à la fontaine, il faisait couler l'eau d'une fontaine dans un crible. Il la secouait comme on filtre le grain, vous savez, ou du sable, quoi.
Oui, avec un tamis, quoi. Fait, oui, hein. Oui, c'est ça.
Et selon la façon dont l'eau s'écoulait à travers le tamis, lui seul savait exactement, et il déterminait la nature et l'origine de la maladie. Et il donnait le remède adéquat,
oui.
Que tous respectaient à la lettre, parce que, curieusement, ça marchait.
Ah bon?
Ah oui, ça marchait. Et alors, ils ont l'auteur de l'article, dont ça c'est encore les archives du Tarn, c'est une mine, c'est super. Et ils ont il a mené une enquête et il a découvert que le don de ce Janou, le Grillo, il y a plus de 100 ans, à l'époque où il parlait, des soldats espagnols passèrent à Grêle, donc là où il habitait, et ceux qui logèrent chez les ancêtres de Janou furent reconnaissants du bon accueil et ils ont donné à l'ancêtre le secret qui s'était transmis de famille en famille.
D'accord.
Et il est vrai que de nombreux Espagnols, à la suite de troubles politiques survenus en Espagne, se sont réfugiés à cette époque-là dans le Tarn et ses environs. Et il est vrai qu'en Espagne, il existe des sorciers appelés chevaliers du crible qui sont détenteurs d'un pouvoir de guérison.
Oui.
Et voilà. C'est assez curieux. Et d'autant plus que les anciens considéraient la passoire et tout ce qui était tamis comme un objet sacré, car elle figurait les nuages laissant passer la pluie, mm-hmm. Et était toujours bienvenue pour les paysans.
Oui.
Et on appelle ça la cosquinomancie ou cosquinomancie.
Oui. C'est très intéressant. Vous restez avec nous, Paula Astruc.
Oui.
Une pause à nouveau et on va continuer avec vous à découvrir ces mystères du Tarn tout à fait fascinants. Il y a évidemment plein d'histoires que vous avez relevées sur plusieurs débinaires, bien entendu. Mais il n'y a pas que ce sujet que vous avez abordé. Bien d'autres sujets. On va y revenir dans quelques instants. Notamment peut-être dans les légendes sur la naissance dans le Tarn, et j'ai découvert à travers votre livre que Castres a été le berceau de l'école des sages-femmes au XVIIIe siècle.
Oui, c'est quelque chose qui a été révélé par le conseil général du Tarn, donc, et ils ont fait une expo aux archives du Tarn et nous avons pu consulter donc, le petit fascicule qu'ils avaient fait. Moi, j'ai été passionnée
j'imagine.
Ça, il est très intéressant, vraiment.
On va y revenir dans quelques instants. Vous nous envoyez vous-même vos recettes, si vous en connaissez, et si vous pouvez les divulguer, évidemment. Vous appelez au 0826 300 300, ou encore, Morad est là au standard pour vous accueillir, ou encore, vous les envoyez par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200.
Sud Radio. Louis Bénédi. Les aventuriers de l'étrange.
Durant la deuxième partie de cette émission Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio, nous vous présenterons le deuxième et dernier volet de notre enquête sur le tombeau de Jésus, sur ce qui est présumé être le tombeau de Jésus. Deuxième partie de l'enquête avec deux archéologues qui viendront nous rejoindre et on reparlera évidemment de ce documentaire signé James Cameron quand même, ce qui est pas n'importe qui dans le monde de la réalisation. On lui doit plusieurs films américains qui ont fait des gros succès, notamment Abyss par exemple, et ce documentaire est passé sur TF1, peut-être l'avez-vous vu, c'était mardi dernier aux alentours de 23h20. Mais pour le moment, nous sommes dans le Tarn avec Olivier et Paula Astruc qui viennent de publier aux éditions de Boré, un livre passionnant qui s'intitule Les mystères du Tarn. Paula Astruc, j'ai découvert donc en vous lisant,
oui,
que Castres a été vraiment le berceau de l'école des sages-femmes. On remonte au XVIIIe siècle tout de même.
Voilà, c'est ça. Grâce à Jean-François Icard, qui était chirurgien, et l'évêque de Castres, Monseigneur de Royère.
Mmh. D'ailleurs, vous appelez ça l'union sacrée entre le goupillon et le bistouri.
Oui, c'est l'union sacrée du goupillon et du bistouri. Et c'est
oui.
Formidable, non, que la science se...
Oui, tout à fait.
Et la religion se rejoigne.
Complètement, oui.
C'est très bien. Et bon, il faut dire que les matrones étaient vraiment, elles n'étaient pas formées. Il y avait quand même, il y avait énormément de décès, non seulement la naissance, mais dans les semaines qui suivaient l'accouchement, une femme sur 10 mourait en couche, et un enfant sur 4, je crois, j'ai pas vraiment le chiffre, mais c'était à peu près ça. Et, bon, 200 ans avant, Montaigne avait dit, j'ai perdu deux enfants au maillot, non sans fâcherie, mais sans chagrin excessif, parce qu'ils étaient résignés.
Ouais.
Hein, c'était vraiment, ça faisait partie malheureusement. Et ces deux hommes, qui étaient deux humanistes, ont été révoltés finalement, chacun de leur côté. Un de voir tous ses enfants qui mouraient en couche, et puis le monseigneur de Royères, qui était un peu désespéré de baptiser tous ces petits corps sans vie, quoi. Donc, et c'était le savoir professionnel. Donc ils ont décidé de s'unir. Et ils ont créé une école de sages-femmes. Alors, il y avait avant une femme chirurgienne, Madame Bourgeois. Bon, elle était à Paris, son mari était patron de l'Hôtel Dieu, je crois.
Ouais.
Et donc, si vous voulez, elle était privilégiée et les femmes qui allaient accoucher là étaient des privilégiées. Tant mieux pour elle, hein, on ne regrette rien.
J'imagine,
elle était très compétente.
Bien sûr.
Je veux dire, y a pas de... C'était comme ça, c'était l'époque.
Mmh.
Et il y avait aussi Madame Ducoudray qui n'avait aucune qualification, mais qui avait l'aval de Louis XV avait pu... Elle parcourait toute la France avec un mannequin qui, d'ailleurs, sert à améliorer dans les écoles de sages-femmes actuelles. Mais bon, son mannequin coûtait très très cher. Moi, j'ai lu qu'elle était morte riche et célèbre. Donc, voilà, c'est vrai que c'était une noble un peu désargentée, mais avec très humaniste, très vraiment avec beaucoup de cœur. Mais elle n'avait aucune formation médicale. Et d'ailleurs, moi, j'ai lu plusieurs critiques les médecins étaient assez... Bon, elle n'était pas tout à fait académique.
Ouais,
et donc,
ouais.
Là, c'était quand même un membre de l'Église et surtout un chirurgien. Donc, lui, pour faire éclater un peu le scandale, parce que bon, ils avaient déjà les notions de publicité quand même à l'époque, et il a écrit, une brochure en 1782 qui était intitulée « Requête des enfants à naître contre les sages-femmes » qu'il a sous-titré « Facétie » envoyée en 1789 aux États du Languedoc. C'est écrit sur le mode de l'ironie, c'est un réquisitoire, et ce sont les enfants qui... il fait parler un
enfant qui va naître, oui.
Voilà, dans le ventre de sa mère, et qui dit « Nous ne sommes pas en sûreté pour entrer dans le monde. Ce n'est qu'en tremblant que nous osons nous y montrer, étant continuellement maltraités par certaines femmes qu'on appelle matrones, qui à propos de bottes viennent nous harceler dans nos casemates, malgré nos précautions à tenir nos portes fermées. Alors, si la curiosité nous porte à mettre la tête dont à naître, on nous accroche lestement avec la queue d'une lampe ou d'une cuillère à peau, ou bien avec le crochet d'une romaine, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait les forceps, en fait, c'était tout ce qui leur tombait sous la main et qui avait un crochet, et ça pouvait être le tisonnier, ça pouvait être bon.
Ouais,
alors voilà, c'est avec ces machines infernales qu'on nous saisit sous le menton, à la bouche, sous le menton, à la bouche, aux oreilles, bon. Et voilà. Et puis quand on meurt, et ben on dit à nos mères que c'est Dieu qui l'avait voulu, quoi. Alors,
oui, voilà. Bah oui,
voilà,
oui, ils n'avaient pas d'autre choix de toute façon. Mais il y avait pas mal de croyances dans les campagnes.
Oh, oui.
Qui était quand même assez effarante. Je vous en lis une, je vais vous citer, vous nous en citerez d'autres après. Par exemple, pour que l'accouchement se passe bien, son mari doit se rendre à l'église pour nouer la ceinture de sa femme au battant de la plus grosse cloche qu'il fera sonner trois fois.
Oui,
bon.
Bonjour la discrétion. Hein.
Oui, non, mais ça c'était râpé de toute façon.
Oui, ça c'était râpé.
C'était râpé. Mais il n'y en avait pas d'autres, ce n'était pas la seule. Est-ce que vous pouvez nous en citer d'autres?
Voilà, alors c'était pour mettre un enfant au monde sans douleur, la femme doit dès le début du travail ôter tous ses bijoux, surtout ceux en or, allumer le cierge de la chandeleur, porter la chemise de son mari et coiffer un bonnet en coton.
Bon.
Voilà.
Oui.
C'est simple, hein?
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, également des superstitions, parce que là, on est dans l'ordre de la superstition.
Oui.
Pour que l'enfant plus tard n'ait pas de mauvaises mœurs, aucun homme ne doit entrer dans la chambre de l'accoucher durant 3 jours, sauf s'il a laissé son chapeau à la porte et qu'il porte la crémaillère de la maison autour de son cou. Bon, déjà, faut avoir gardé la crémaillère.
Oui, déjà.
Et puis, il faut se la faire passer. On rentre pas plus d'un, évidemment.
Vous savez, moi, j'ai pensé que c'était, je l'ai dit d'ailleurs, c'était peut-être pour assurer le repos de la mère et de l'enfant, parce que, franchement, porter la crémaillère de la maison autour de son cou, je vois pas quel homme, surtout à l'époque, aimait faire ça.
Oui, mais oui, c'est
donc,
vrai.
Donc, peut-être, c'était aussi, ils essayaient, vous savez, c'était une autre époque. Hein.
Oui. Mais c'est vrai que à ce moment-là, la maman avait la tranquillité au moins pendant trois
jours. Voilà, pendant trois jours, et c'était très important.
Et les femmes restaient entre elles également.
Tout à fait, oui.
Et alors, une autre, parce que évidemment souvent, parce que vous l'avez dit, une femme sur dix mourait en couche quand même à cette triste époque-là.
Et des suites de couches, c'était affreux.
Bah oui. Alors, si les souffrances deviennent insupportables, il faut percer le toit de la maison avec une flèche. Encore, on se dit, bon, jusque-là,
à peu près,
c'est jouable.
On n'est pas chez les Indiens.
Mais
hein.
Avec une flèche ayant tué successivement un sanglier, une ours et un homme.
Oui, elle avait le temps de souffrir, hein, mon ami.
Ah bah elle avait le temps de mourir, la pauvre femme.
Elle avait le temps de mourir, oui. Je crois que c'est tout simplement pour dire que c'était impossible, quoi. Je crois que c'était un aveu de, voilà, d'échec, c'est tout.
Oui.
Voilà.
Ils ont
quand même abrégé, ils se sont rendu compte que c'était peut-être trop difficile, hein, puisqu'après ils disent qu'on peut aussi percer le toit avec une hache ou un sabre de bataille que l'on aura retiré du corps d'un homme avant que celui-ci ne soit tombé à terre. Mais là aussi, fallait le trouver, le bonhomme, hein.
Oui.
Pour qu'un enfant naisse, il faut qu'un enfant meure. C'est quand même...
Oui, c'était un peu ça, la symbolique, finalement,
ça,
vous avez raison.
C'est un peu ça, la philosophie du truc.
Oui. Et alors, en revanche, une croyance que j'ai encore entendue, il y a pas très très longtemps, quand un enfant naît coiffé.
Être né coiffé,
voilà.
Oui.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Eh bien, lorsque le nouveau-né est expulsé, il arrive parfois que la poche des os ne soit pas rompue.
Oui.
Que souvent,
oui.
On dit, bon, la femme a perdu les os, mais il arrive qu'une femme ne perde pas les os et que l'enfant naisse finalement dans la poche, quoi. Oui. Et alors, la tête de l'enfant apparaît entourée de la membrane amniotique.
Voilà. Oui.
C'est pour ça qu'on dit... Et alors, au Moyen-Âge, on se méfiait des sages-femmes. Vous savez, elles étaient soupçonnées d'être sorcières. D'ailleurs, ça vient de sorcières, hein, de sagas, je crois. Enfin, bon, je vous assurerai pas, mais enfin. Et elles étaient soupçonnées de voler cette membrane pour préparer de puissants filtres d'amour. Alors l'Église exigeait qu'on lave la coiffe à grande eau et qu'on la fasse disparaître.
Ouais.
Voilà. Et alors ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui on a découvert la richesse des cellules du cordon ombilical et du placenta et qu'on les utilise à des fins médicales et cosmétiques. Hein.
Oui, tout à fait.
Quand même,
C'est vrai.
Et c'était considéré comme quelque chose qui avait un pouvoir, qui avait, c'était quelque chose d'assez miraculeux. Quoi, enfin c'est bizarre, hein, ce qui est empirique se retrouve...
Et ça a perduré jusqu'à nos jours. On dit qu'un enfant né coiffé,
qu'il aura des
talents particuliers, des dons particuliers.
Ça veut dire qu'il est né pour le bonheur,
voilà.
Comme un enfant qui a les dents écartées, ce sont les dents du bonheur.
C'est vrai.
Et là, le nouveau-né, lorsqu'il naît coiffé, c'est-à-dire lorsque la poche des os n'a pas été percée, on dit que c'est l'enfant de la chance.
C'est vrai. Et alors, les enfants également, qui naissent le jour d'un fait d'armes, verront, alors on se dit, tiens, ils seront vigoureux au combat, ils seront vaillants. Non, pas du tout. Verront leur âme sortir ou rentrer à volonté de leur corps.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils pourront sortir de leur corps comme ils le voudront.
Oui.
Ils tourmenteront force gens durant leur sommeil pour devenir eux-mêmes sorciers sous le nom de masque.
Oui. Oui. Et alors, Moi, je n'avais jamais entendu ça. Dans les proverbes qu'on a cités, j'en avais entendu. J'ai 63 ans, donc j'ai quand même entendu pas mal dans ma jeunesse. Donc j'ai entendu pas mal de trucs, mais ça, par contre, je ne l'avais jamais entendu. Et c'est apparemment tarné. Hein, ce sont des proverbes qu'on a trouvés, des superstitions qui étaient dans le temps.
Oui. Alors, malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin, mais j'aimerais quand même qu'on fasse un petit détour, parce que bon, il y a des histoires extrêmement croustillantes et très drôles concernant notamment un chirurgien d'un groupe de dragons qui était un corps d'armée qui, sous prétexte de soigner une jeune femme, lui fit subir des choses que bon, je vais rester à cette époque-là, la morale réprouvée, bien entendu. Et la pauvre jeune femme s'est retrouvée enceinte sans comprendre pourquoi.
Oh oui, la pauvre, oui.
Ça, c'était...
elle avait 30 ans, et vous savez, à 30 ans...
Elle était
considérée comme une vieille fille. Elle avait la coiffée Sainte Catherine. Et la pauvre femme, la pauvre jeune femme, elle avait des maux de ventre, elle avait... Et puis ce médecin des dragons lui a promis qu'elle irait mieux, parce qu'il faudrait qu'avec son doigt, il aille un petit peu voir.
Oui, oui,
et effectivement, mais elle était un peu gênée, et alors il lui a dit, écoutez, vous viendrez... ses parents étaient tapissiers, elle. Mm-hmm. Et alors il lui a dit, écoutez, comme vous êtes pudique, vous allez vous cacher derrière le rideau, sur les tapisseries, donc, les tentures.
Oui, oui.
Et il lui a dit, et avec le doigt, je vais voir... Et, évidemment, elle a trouvé ça très bien, ça lui a fait beaucoup de bien, mais apparemment, ce n'était pas le doigt qu'elle avait mis, puisqu'elle s'est retrouvée enceinte, la malheureuse, et ça a duré quand même 3 ou 4 mois. Bon, c'est vrai que, mais vous savez, les historiens qui racontent ça, on a trouvé ça dans les archives du temps, ils avaient des réunions, et voilà, et quand un pouvait trouver une histoire croustillante, vous savez, ils sont pas toujours austères et sérieux.
Ah non, hein, j'imagine, ça a dû les faire beaucoup rire, effectivement.
Oui, et puis j'en ai trouvé d'autres, mais qu'on oserait même pas raconter.
Alors,
oui, peut-être au Chevalier du Fiel, ils vont pas là. Hein,
parce oui, que... oui, oui, tout à fait. Au Chevalier du Fiel, eux, ils seront ravis, ça les
fera
beaucoup.
Mais pas vous, hein, non, on se permettrait pas.
Cela dit, enfin, il y en a quelques-unes qui étaient très drôles. Mais bon, oui. Se reporter à votre livre dans ces cas-là. Alors, juste quand même, avant de se quitter, un petit détour du côté des... Alors, je ne savais pas qu'il en existait, des mégalithes.
Oui, les mégalithes d'Alban.
Ah oui.
Oui, alors figurez-vous que nous étions à une signature et que nous avons un descendant des seigneurs d'Alban est venu acheter un livre et je lui ai quand même dit que ce n'était qu'une légende parce que le seigneur, les seigneurs dont il descend, franchement, son château a été brûlé, donc j'espère que c'est une autre dynastie pour lui.
Oui, tout à fait. Et alors, quid de ces mégalithes alors?
Ben, écoutez, ce sont des mégalithes, tout simplement, hein. Mais il faut, disons que quand on ne comprend pas quelque chose, surtout à l'époque, bon, ça a été raconté en 1835 à Claude Tessier, donc, c'est toujours les archives du Tarn, bien sûr.
Ouais.
Et c'était à Fraïs, donc, dans la région d'Alban. Et eux, ils avaient une explication très simple, c'est que c'est la Vierge qui s'était opposée à Satan dans un lancer de pierre digne des Jeux Olympiques.
Mmh.
Et voilà, donc ce seigneur qui était sanguinaire, qui était vraiment épouvantable et en plus avare parce qu'il partageait même pas avec ses compagnons. Donc, un jour, ses compagnons l'ont abandonné, il s'était mis de connivence avec les valets du château. Et ils l'ont abandonné, ils sont rentrés. Donc lui, il a mis certainement plusieurs jours à rentrer. Quand il est rentré, sa femme et ses enfants avaient été tués. Et le château pillé, bien sûr. Et puis il s'est évanoui quand il a vu ça et il a vu l'apparition de sa femme qui lui disait qu'il pourrait les rejoindre au ciel s'il se repentait. Et donc quand il s'est réveillé, il a construit une espèce, il est devenu Clodo, quoi. Il est resté dans les ruines de son château et il a prié la Vierge, il a donné tous ses biens aux paysans qu'il avait volés. Et donc le jour où il est mort, alors il avait fait, oui, parce qu'il avait été arrêté et il avait pu se sauver parce que le diable lui était apparu, toujours pareil, le pacte du diable, donc quand tu mourras, tu vas t'évader et quand tu mourras, bien sûr,
ton âme sera à moi.
Oui. Et la Vierge a été émue quand même parce que pendant des années, il est mort très vieux, donc il s'était repenti et donc elle a fait un pacte avec le diable et il avait fait une croix, le diable, donc voilà, c'était pas valable, etc. Et puis, ils ont joué donc l'âme de ce seigneur.
Mmh.
Il y avait deux pierres énormes et ils ont joué
celui qui l'a lancé,
le bloc de pierre le plus loin. C'est celui qui aurait l'âme.
Ouais,
et alors le diable a lancé évidemment très très loin et puis la Vierge a pris ça avec délicatesse et on aurait dit que ça volait dans le ciel et puis hop, elle a eu la médaille d'or, lui la médaille d'argent.
Voilà. Et l'âme de ce brave homme a été assez
sauvée. Et parti au paradis avec ses enfants, vous savez, c'est très moral.
Ah oui, complètement, j'imagine.
Oui, donc je pense que le seigneur d'Alban que nous avons rencontré, qui est charmant d'ailleurs, sera ravi de la conclusion.
Bien.
Et en paix avec l'âme de son ancêtre.
Je vous remercie beaucoup en tout cas, Paula Astruc, de nous avoir accordé ces quelques instants, ainsi que votre époux Olivier.
Oui.
Je rappelle donc le titre de votre livre, Les Mystères du Tarn, c'est aux éditions de Boré. Oui. Et le sous-titre de ce livre, Histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires. Merci beaucoup et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Et on termine cette première partie de l'émission avec un SMS qui est arrivé au 71-200. Vous savez que je vous avais parlé tout à l'heure de ce remède que j'ai découvert dans le livre d'Olivier et Paula Astru pour soigner les migraines, prendre une chauve-souris, la fendre en deux, ensuite l'appliquer sur le cou du bras. Le SMS dit « Pas mal le cou avec la chauve-souris, mais c'est qui a le plus mal à la tête ?» Évidemment, c'est assez amusant. Si vous voulez envoyer vos SMS, 71-200, c'est le numéro de téléphone. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous nous l'envoyez. Ou vous appelez Morad au 0826-300-300. Dans quelques instants, deuxième partie de cette émission avec l'enquête concernant le tombeau de Jésus qui aurait été découvert dans une banlieue de Jérusalem. Nous allons en parler avec deux archéologues qui sont en notre compagnie et nous nous poserons les bonnes questions et nous essaierons de vous donner des éléments de réponse pour savoir si le documentaire de James Cameron disait vrai ou pas. À tout de suite.